Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il est suspecté d'avoir attendu ses compères au pied du Louvre au matin du 19 octobre. Le dernier membre présumé du commando du casse du Louvre interpellé hier matin, les bijoux, eux, restent introuvables. Quelques points de désaccord à régler. L'optimisme de Donald Trump ce matin en vue d'un accord de paix en Ukraine. Le président américain va envoyer un émissaire la semaine prochaine à Moscou. Et l'espoir qui renaît après la victoire de l'OM 2-1 hier soir en Ligue des Champions face à Newcastle.
L'enquête progresse un mois après le casse du Louvre.
Quatre personnes, je vous le disais, ont été interpellées hier matin. Quatre nouveaux suspects dans cette affaire placés en garde à vue. Deux femmes, deux hommes, parmi eux Julie Brault, le quatrième et dernier membre présumé du commando de cambrioleurs.
Oui, cet homme âgé de 39 ans a été interpellé à Laval, en Mayenne, déjà connu des services de police pour vol et recel. Il est suspecté d'être l'un des deux conducteurs qui ont attendu au pied du Louvre à scooter avant de prendre la fuite avec les bijoux dérobés. À ses côtés, un autre homme âgé d'une trentaine d'années et deux femmes de 31 et 40 ans sont également interrogées en garde à vue, tous originaires de la région parisienne. On ne sait pas encore ce qui leur est précisément reproché à ce stade. Mais une chose est sûre, c'est un important travail d'enquête mené depuis plus d'un mois et qui a permis de remonter leurs traces, notamment l'analyse de la téléphonie ou encore des traces ADN retrouvées sur les lieux du cambriolage. Autant de données qui ont déjà mené à la mise en examen de quatre autres personnes dans cette affaire, dont trois membres présumés du commando de cambrioleurs.
Et toujours pas de traces en revanche des bijoux dérobés dans ce cas, au scénario déjà établi, presque anticipé. Résultat d'un audit publié en 2018 que s'est procuré le journal Le Monde, dans lequel la vulnérabilité du balcon utilisé par les cambrioleurs est pointée du doigt. Le document mentionne également le mode opératoire utilisé par les cambrioleurs, à savoir l'utilisation d'un monte-charge qui, je cite, faciliterait l'accès à ce balcon. Nouvelle attaque de drones cette nuit en Ukraine du côté de Zaporijjia, la Russie qui intensifie ses frappes alors qu'un accord de paix est sur la table. Au point d'être conclu, c'est toute la question. Un émissaire américain va se rendre à Moscou la semaine prochaine. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Étape de plus dans un processus de paix, Antoine, engagé par les États-Unis optimistes ce matin.
Oui, Donald Trump donne un coup d'accélérateur diplomatique. Steve Witkoff, son homme de confiance, et son gendre Jared Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou la semaine prochaine. En parallèle, un autre émissaire américain sera lui chargé des discussions avec Kiev. Trump, en tout cas, l'assure. Il ne reste que quelques points de divergence à régler. Une façon très optimiste de voir les choses. Les discussions, en fait, tournent autour de cette feuille de route présentée par les États-Unis la semaine dernière. Ce plan, au départ très favorable à la Russie, qui a finalement été réécrit par les Américains et les Ukrainiens. La nouvelle version doit être encore approuvée par le Kremlin et elle n'a pas tranché les questions les plus sensibles, les concessions territoriales, la taille de l'armée ukrainienne ou encore l'adhésion à l'OTAN. Il reste encore énormément de travail à accomplir. En attendant une éventuelle percée dans les négociations, Trump n'envisage pas de rencontrer Zelensky ou Poutine. Il explique qu'il le fera uniquement lorsque l'accord sera finalisé.
Et dans ce contexte, on a appris à la mise en examen de quatre personnes, dont trois écrouées à Paris, soupçonnées d'espionnage économique au profit de Moscou et d'ingérence après la découverte d'affiches collées sur l'Arc de Triomphe début septembre. Nouvelle séquence judiciaire pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation doit dire aujourd'hui si le droit a bien été respecté dans la condamnation en appel de l'ancien président à un an de prison, dont six mois avec sursis dans le cadre de l'affaire Big Malion. Pas de retour à la case prison. En revanche, pour l'ancien président, sa peine sera automatiquement aménagée. Députés et sénateurs vont se retrouver ce soir en commission mixte paritaire pour travailler sur le budget de la Sécu, revu et corrigé par les sénateurs qui ont retoqué hier soir la suspension de la réforme des retraites.
7h04 sur RMC, le Parlement prochainement appelé à se prononcer sur la baisse des prix de l'électricité.
C'est en tout cas la volonté de Sébastien Lecornu. Il a demandé à son ministre de l'économie de plancher sur différents scénarios. Plusieurs options sont sur la table. Une promesse qui s'inscrit, Hélène Terzan, dans un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie voulu par le Premier ministre.
Oui, c'est l'une des cinq priorités absolues sur lesquelles il veut que les parlementaires se positionnent. Pour faire baisser la facture d'électricité des ménages et des entreprises, l'entourage du Premier ministre fait savoir que plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement. Il est même question d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Hier, à l'Assemblée, le ministre de l'économie, Roland Lescure, évoquait déjà la piste de la taxation de l'électricité.
Il faut que la fiscalité soit en phase avec nos objectifs de transition
transition écologique. Le débat sur les assises, il doit avoir lieu, notamment évidemment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances.
Car aujourd'hui, la taxation de l'électricité est plus élevée que celle sur le gaz importé. Des décisions seront prises d'ici Noël, poursuit le ministre. Mais déjà, le monsieur énergie du RN, Jean-Philippe Tanguy, dénonce une énième déclaration totalement vide pour gagner du temps. Son parti plaide surtout pour une baisse du coût de production français de l'électricité.
Et vous, est-ce que vous estimez qu'on paye l'électricité trop cher en France? Vous êtes particulier, vous êtes artisan, vous êtes commerçant. Combien est-ce que vous payez votre électricité? Appelez-nous au 3216 pour en témoigner. Et puis ne manquez pas, juste après le journal de Thibault, l'expert en énergie, Nicolas Goldberg, qui nous dira si vraiment ça va baisser et comment.
Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'inquiétude ce matin des salariés d'Auchan en difficulté. Le distributeur nordiste affiche sa volonté de passer ses 294 supermarchés en franchise sous la bannière du groupement des mousquetaires Intermarché et Netto. Si le projet prévu pour 2026 doit encore être soumis à l'autorisation des autorités de la concurrence, les syndicats redoutent le pire. Un an, Lou Garnier, après l'annonce d'un plan social et la suppression déjà de 2400 postes.
L'annonce a provoqué un choc chez les salariés, selon René Carrette. Il est délégué syndical central CFDT chez Auchan.
C'est hyper violent à apprendre que 11 000 salariés vont quitter l'enseigne Auchan pour un peu un avenir, on va dire, incertain. C'est dur à entendre.
Alors les employés vont rester des salariés d'Auchan. Le groupe reste aussi propriétaire du fonds de commerce. Mais les employés vont désormais travailler pour les enseignes Intermarché et Netto. Contacté par RMC, le groupe Auchan nous assure qu'aucun emploi n'est menacé. Difficile à croire pour les syndicats.
En général, quand vous avez comme ça une reprise en franchise, dans les 6 mois qui suivent, vous avez une baisse de la masse salariale obligatoirement.
Surtout, les salariés pourraient perdre leurs avantages.
Les jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté, on a des plans d'épargne entreprise, tout ça, demain, ils le perdront. Chaque supermarché va devoir négocier avec son directeur. Ça correspond en moyenne, par salarié, environ 2 500 € de perte par an.
Il espère des engagements de la part du groupe concernant les emplois et leurs acquis sociaux.
Une victoire qui fait du bien, beaucoup de bien, celle de l'OM hier soir en Ligue des Champions 2-1 face à Newcastle, deuxième succès de la saison dans la compétition pour les Marseillais, renversant mené dès les premières minutes de jeu. Et l'artisan de cette victoire, Clément Brossard, c'est le vétéran Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé hier soir au Vélodrome.
Remplacé à 5 minutes de la fin, l'attaquant marseillais a bien mérité son ovation. Il a été hier soir le héros des supporters.
Oba nous a tout le temps fait rêver, il nous fera tout le temps rêver. Ah, Aubameyang, il fait plaisir.
Franchement, s'il continue comme ça en Ligue des Champions, c'est carré.
Merci, Pierre-Emerick Aubameyang.
Plusieurs occasions manquées en première période, mais un doublé au retour des vestiaires en 5 minutes. Et voilà l'OM devant, le défenseur Benjamin Pavard est séduit.
Il n'y a rien à prouver à personne. Sa carrière, elle parle pour lui. C'est un grand buteur, c'est aussi une super personne. Et il mérite parce que c'est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui.
Un 19e puis 20e but en Ligue des Champions, l'attaquant de 36 ans s'offre une seconde jeunesse, selon Timothy Weah.
Un joueur qui a 19 ans quand il joue. C'est quelqu'un qui a pas d'ego et qui travaille pour l'équipe. Donc il mérite tout ce qu'il arrive aujourd'hui et je suis très fier de lui aussi.
Il faudra pourtant s'en passer à partir du 21 décembre, car le buteur marseillais partira au Maroc jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon.
L'OM 19e au classement avant les matchs de ce soir. PSG Tottenham, rendez-vous sur RMC 21h, 18h45 avant ça. Monaco se déplace sur la pelouse des Chypriotes de Paphos.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. Vous êtes nombreux à réagir à cette proposition du candidat écolo à Paris, David Béliard, qui veut interdire les SUV de stationnement dans la ville. En gros, vous aurez le droit de traverser la ville, de vous stationner en parking souterrain, mais pas de vous arrêter sur la voie. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, comment ça va? Vous êtes responsable SAV justement dans l'automobile du côté
exactement.
De l'Ardèche. Laurent, oui. Comment vous réagissez?
Je réagis de manière vigoureuse. En faux avec les propos de notre élu écologiste. Mmh. Il faudrait qu'il se renseigne un tout petit peu. Les SUV dont il parle, pour moi, c'est pas le SUV, le danger, c'est le conducteur, premièrement. Mmh. Deuxièmement, les SUV dont il parle sont souvent équipés d'aides à la conduite qui sont bien plus performants sur les SUV que sur des berlines.
Oui, parce que ce que vous dites, Laurent, c'est qu'effectivement, vous réagissez à un point, c'est que son argument à David Béliard, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il dit, oui. En fait, il y a moins de visibilité sur un SUV. Vous vous dites,
SUV,
vous en vendez, j'imagine.
Oui.
Vous en vendez, vous savez de quoi vous parlez, quoi.
Un petit peu, et puis surtout, si on parle effectivement, c'est le poids qui est un danger. À ce compte-là, il interdit la circulation de tous les poids lourds, de tous les autobus dans Paris, et effectivement, les piétons seront en sécurité, puisqu'effectivement, le rapport poids-puissance C'est ce qui fait, c'est ce qui crée le danger. Les véhicules sont mieux équipés en SUV. Et puis je le redis, vous mettez une berline avec 300 chevaux dans les mains d'un jeune conducteur, il est tout aussi dangereux que quelqu'un qui roule en SUV.
Oui, qui est un bon père de famille, donc, si je puis me permettre l'expression.
Et puis j'aurais une question à lui poser. Est-ce qu'il a déjà cherché à prendre le métro? Il nous parle des transports en commun à Paris. Moi, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Est-ce qu'il a déjà cherché à prendre le métro, le bus, avec une maman et deux enfants en poussette? Et je ne parle que de deux enfants.
Parcours du combattant. Moi, je vous le dis. Là, j'en ai plus en poussette, mais j'en ai eu. Et c'est vrai que c'est le parcours du combattant à chaque fois pour descendre. Et il faut espérer tomber sur une bonne âme qui vient vous aider à porter la poussette avec vous. Moi, maintenant, je le fais systématiquement parce que je sais et je l'ai vécu. Laurent, ça marche toujours autant les SUV, vos clients, ils en demandent?
Je suis dans une région où le 4x4 est très utile puisque je travaille sur la région grenobloise. Mmh. Et effectivement, en montagne, le SUV a un fort succès. Ouais.
Oui, j'imagine. Merci beaucoup Laurent d'avoir témoigné au 32-16. Ne manquez pas la voix de droite ce matin, puisqu'on est mercredi, à 7h50, ce sera Louis Sarkozy. Il veut interdire, j'ose le dire, je crois qu'il veut interdire David Beignard plutôt que les SUV. Il vous le dira à 7h50 mieux que moi, 7h11 sur RMC. Et faire baisser la facture d'électricité pour les ménages et les professionnels, c'est ce que veut maintenant le gouvernement. C'est la nouvelle priorité de Sébastien Lecornu, faire baisser les factures. Comment? Pour qui? Quand? Nicolas Goldberg est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'énergie pour le cabinet Columbus Consulting, réduire les prix de l'électricité, c'est possible, mais ça aura un coût et vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15. Et si nos factures d'électricité baissaient? Bonjour Nicolas Goldberg, vous
Bonjour.
Êtes consultant chez Columbus Consulting, vous êtes spécialiste des questions d'énergie, c'est devenu l'une des 5 priorités du gouvernement. Sébastien Lecornu qui nous annonce qu'il a demandé au gouvernement en priorité de faire baisser les factures d'électricité. Pourquoi? Parce qu'elles sont très hautes en ce moment?
Les factures d'électricité, elles sont hautes. Surtout, c'est un IA taxe. Il y a quand même énormément de taxes sur les factures d'électricité, près d'un tiers pour les ménages. Et surtout, le message que veut passer ce gouvernement, c'est qu'il faut électrifier notre économie. Ça veut dire qu'il faut passer aux véhicules électriques, les pompes à chaleur, mettre des fours industriels dans l'industrie. Et donc ça, forcément, si vous avez une électricité qui est un IA taxe et dont vous augmentez les taxes, ce qu'a fait le gouvernement ces deux dernières années, vous envoyez un message qui est négatif.
Je vous avoue que c'est ce que je trouve assez cocasse. C'est que c'est quand même eux qui ont monté les taxes. Je fais, pour ceux qui nous regardent en télé, vraiment le signe. J'ai l'impression ils ont monté et puis maintenant c'est eux qui disent « Oh bah faudrait descendre ». Peut-être ils pensaient plus tôt.
On est complètement d'accord. Alors après, les taxes, elles avaient baissé pendant la crise énergétique et c'était très bien. Après, en 2024, le choix a été fait par le gouvernement de l'époque et Bruno Le Maire de remonter les taxes, ce qui était une bêtise. On en a parlé à ce micro.
Je me souviens de vous, à ce même micro, Nicolas Goldberg, qui déjà alerte. Vous disiez, mais c'est absurde de remonter les taxes.
C'était absurde de les remonter autant, surtout. Parce que certes, il y a la question de l'équilibre budgétaire, mais au niveau du signal politique, c'était terrible. C'est-à-dire qu'en 2024, on pouvait avoir une stabilité des prix de l'électricité. Et le choix avait été fait par le gouvernement de l'époque d'augmenter les taxes et donc d'avoir une augmentation des prix de l'électricité.
Vous dites c'était ni à taxes, ça représente quel pourcentage sur 1 euro payé?
En gros, vous considérez que sur 1 euro payé de facture, il y a 33 centimes de taxes. 30 centimes de taxes.
Un tiers.
C'est beaucoup, c'est un tiers, effectivement. Alors, vous avez plusieurs taxes, vous avez de la TVA, vous avez de l'accise.
Il faut rappeler que
la TVA n'est pas payée par les entreprises. Donc, si vous voulez agir sur la compétitivité des entreprises dans l'électricité, c'est pas la TVA qu'il faut toucher, contrairement à ce que certains partis politiques disent. Donc là, il y a des chances, si le gouvernement veut faire baisser immédiatement les factures, que ce soit les taxes qui faille bouger. Et il faut bien dire quelque chose, c'est que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il y a plus de nucléaire régulé dans vos factures. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire le mois prochain, EDF vend une partie de son électricité nucléaire à 42 euros, quel que soit le prix. Et ça, à partir de l'an prochain, c'est terminé parce que ça grévait les finances d'EDF.
Et ça aura quoi comme conséquence?
Alors, ça a un impact forcément négatif sur les factures des consommateurs.
C'est peut-être ça qu'ils anticipent, là, le gouvernement.
Alors non, parce que les prix de marché ont tellement baissé que en fait l'année prochaine, si on ne touche à rien, les prix de l'électricité devraient rester stables. Voilà. Malgré le fait que EDF ne vende plus son électricité à 42 euros, on a des prix de marché qui sont tellement bas que ça devrait se traduire par une légère baisse, mais c'est cette baisse que le gouvernement voudrait amplifier pour envoyer enfin un signal politique en faveur de l'électrification.
Enfin, dites-vous, effectivement, mais la France produit pourtant déjà aujourd'hui une des électricités les moins chères d'Europe, on est bien d'accord.
Alors c'est vrai, et d'ailleurs sur le marché européen de l'électricité, alors il n'y a pas un prix européen de l'électricité, hein, y a bien un prix en France sur un marché européen, il est extrêmement bas, hein, c'est-à-dire que les Allemands sont autour de 90 euros du mégawattheure, nous on est plutôt autour de 50 en ce moment, donc il y a un vrai avantage de la France dans son électricité. Le marché maintenant qu'il est bas, c'est un avantage pour les consommateurs. Ceux qui vous disent qu'il faut sortir du marché européen pour faire baisser les prix vous racontent un peu n'importe quoi. Donc, il y a une électricité qui est pas chère, mais il y a un signal politique quand même qui est pas terrible quand on dit que c'est une taxe, enfin, c'est une commodité qu'on taxe alors qu'il faudra en consommer plus.
Une dernière question. Baisser les taxes, ça on l'a bien compris, c'est vraisemblablement vers ça qu'il s'oriente. Est-ce que ça pourrait aller carrément plus loin, vers une électricité subventionnée? Je parle de l'exemple allemand qui a décidé de subventionner l'électricité pour relancer son industrie. Est-ce que ça, c'est envisageable pour la France?
Alors, c'est envisageable, c'est-à-dire que les Allemands ont appliqué un cadre européen pour faire ça. Par contre, vous me permettrez l'expression, ce que font les Allemands, c'est pas terrible, hein. C'est-à-dire qu'ils agissent sur la moitié de la facture des industriels, donc pas des ménages et des petites entreprises, pour seulement une petite part limitée dans le temps et que les industriels devront réinvestir immédiatement. Et comme je l'ai dit, les industriels aujourd'hui, ils ont un prix de marché qui est autour de 90 euros, là où la France est à 50.
Donc, oui, donc on est déjà beaucoup plus compétitif.
On est déjà beaucoup plus compétitif. C'est bien sur les prix de marché, les taxes qu'il faut agir, peut-être les coûts de réseau, mais ça c'est un peu plus compliqué, mais surtout il faut agir sur l'équipement, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les ménages consomment pas plus d'électricité, c'est parce que ça coûte cher, enfin c'est beaucoup d'argent de laisser son véhicule thermique pour un véhicule électrique, et c'est peut-être là qu'il faut agir en finançant les véhicules électriques avec du leasing social, avec des aides.
Merci beaucoup Nicolas Goldberg, spécialiste des questions d'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Il est 7h20, l'historien d'Apolline Matin vient d'entrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est l'heure des marchés de Noël. Le marché de Noël de Strasbourg ouvre ses portes à 14h tout à l'heure. 3 millions de personnes attendues. Les marchés de Noël ne connaissent pas la crise.
Oui, les marchés de Noël ont survécu à tout, même au nazi qui adorait ça, figurez-vous.
Oh là là, c'est pas forcément une bonne nouvelle ça. Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face dans un instant. Mon invité, c'est François Hollande ce matin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Quand l'actualité est claire, notre actualité avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est l'ouverture du mythique marché de Noël de Strasbourg jusqu'au 24 décembre dans la capitale alsacienne. Et les marchés de Noël, ça cartonne et désormais c'est partout en France.
Et oui, leur succès ne se dément pas, hein, c'est en croissance constante. L'année dernière, les marchés de Noël en France ont rassemblé près de 150 millions de personnes pour des retombées estimées à 10 milliards d'euros quand même.
10 milliards d'euros
de retombées.
C'était pas une spécialité française au départ?
Ah non, pas du tout. C'est une vieille, très vieille tradition autrichienne à l'origine. Le premier marché de Noël, c'était à Vienne en 1294. Alors au départ, c'était un peu des sortes de fêtes de village. Hein. On vendait un peu de tout, de la nourriture, des bibelots. Noël était surtout un prétexte pour se réunir. Petit à petit, ça va conquérir l'Allemagne. Alors ça a attiré du monde, mais c'est devenu de plus en plus malfamé et même très dangereux. Si bien qu'au 19e siècle, les marchés de Noël, c'était un repère d'ivrognes et de voyous.
Donc on n'y allait plus?
Alors en tout cas, plus la bourgeoisie. Hein. Mais tout change en 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Les marchés de Noël reviennent en force. Pourquoi? Parce que Hitler en personne a eu l'idée d'exploiter cette tradition, mais à la sauce nazie, il en impose dans toutes les villes. On ne vendait que des produits 100% allemands. Il y avait des ateliers organisés par le parti, de la musique militaire, des petits blondinets partout qui chantaient des chants nazis. Bref, une sorte de foire nationaliste et réactionnaire qui n'avait évidemment plus rien à voir avec la religion chrétienne.
Ça me fait regarder, je vous avoue, les marchés de Noël un petit peu différemment là, depuis... Arthur. Le public était au rendez-vous?
Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Un chiffre, en 1936, le marché de Noël de Berlin a rassemblé 2 millions de personnes pour l'époque. C'est colossal.
Après la guerre, ça reste à la mode donc?
Alors, plutôt, oui, ça reste à la mode, même si évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le nazisme. Hein. Les marchés de Noël renouent avec ce qu'on pourrait appeler le Noël chrétien. Ça explose surtout dans les années 60 et ça devient le lieu où on vient acheter son sapin, ses décorations de Noël. le pain d'épices pour les enfants, etc.
Et en France, où était le premier marché de Noël ?
À Strasbourg, la ville qu'on surnomme d'ailleurs la capitale de Noël. Et ça date, hein, puisque la première édition a eu lieu en 1570. Depuis, c'est devenu une institution. C'est le premier marché de Noël de France. 3,5 millions de visiteurs l'an dernier. Et aujourd'hui, les marchés de Noël pullulent en France, hein, et pas seulement en Alsace, puisqu'il y en a maintenant dans le sud de la France, à Nice ou Aix-en-Provence par exemple, où ça n'était pas du tout la tradition.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Mon invité tout à l'heure à 8h30 sera l'ancien président de la République, François Hollande.
Bah oui, Apolline.
Bah oui,
on se fait plaisir. Après Vincent Jeanbrun hier, un nouveau sexe symbole dans le face-à-face. François Caliente Hollande. C'est devenu le calendrier de l'avant des beaux gosses, hein, votre interview. Je suis sûr qu'Alain Bauer est devant son miroir en se brossant la moustache en disant « C'est sûr, demain c'est moi !» Et elle va craquer, enfin. C'est ta chance, Alain. Allez, c'est ta chance. En plus, attendez, c'est pas n'importe qui, François Hollande. C'est quand même le député de la première circonscription de Corrèze. Bon, alors, il n'y a qu'une circonscription en Corrèze et ils sont 250 habitants, mais c'est balèze quand même. Alors tiens, je parlais à Géraldine Demory dans les couloirs, elle est formelle. Si François Hollande est dans nos locaux, ça veut dire qu'il va pleuvoir sur Paris toute la journée. Soyez prudents. François Hollande qui n'exclut pas de se présenter à la présidentielle. Alors après, bon, c'est comme au foot, hein. Les stats sont pour lui. Il s'est présenté une fois, il a été élu, c'est du 100%. Alors que Mélenchon, c'est le FC Metz de la politique. 3 matchs, 3 défaites. Et puis, c'est pas comme si Olivier Faure et Raphaël Glucksmann éclaboussaient la campagne de leur charisme. Vous l'avez vu le débat Glucksmann-Zemmour l'autre soir?
Non.
Non. Alors si comme Glucksmann, vous l'avez raté, il est en rediffusion sur YouPorn dans la catégorie BD. DSM et domination.
Oh non.
Donc voilà, battre fort et Glucksmann à une primaire, c'est un peu comme gagner un bras de fer contre Philippe Croizon, ça se fait.
Oh,
c'est
non.
Comme un trivial poursuite contre Delogu, quoi. Anne Hidalgo a déclaré François Hollande ne serait pas un bon candidat. Puis elle s'y connaît, elle a fait moins de 2%. 1,75%. C'est pas un score à une présidentielle, c'est un taux de livret A.
C'est mieux que le livret A.
Dans un entretien au Monde, François Hollande attaque les Trump et Poutine. Il les accuse de pousser l'extrême droite chez nous pour nous affaiblir. Alors oui, bon, peut-être, mais ce qui nous affaiblit aussi vachement, c'est nos 3500 milliards de dettes.
Ah oui.
Et je me suis dit, mon Dieu, si ça se trouve, Bruno Le Maire était envoyé par les Russes. En fait, c'est Poutine en réunion qui a dit « On va envoyer un missile nucléaire sur Paris, j'en ai marre !» Et il y a un gars qui s'est levé qui a fait « Tovarich Poutine, je m'appelle Bruno Le Merskov et j'ai un autre plan !» Et ça a été le début de nos ennuis. Alors François Hollande va nous détailler la suite à 8h30. À tout à l'heure avec le Bachelor.
Avec
le Bachelor.
Merci Arnaud, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis il y aura Louis Sarkozy, tiens, la voix de droite à 7h50. Tu veux interdire d'interdire, vous l'entendrez, il est 7h26.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Non, les ondes du téléphone ne donnent pas le cancer. Aucun lien n'a été démontré à ce jour, dit l'Agence de sécurité sanitaire qui recommande tout de même de la prudence. 3 semaines tout juste après l'attaque à la voiture Bélier sur l'île d'Oléron, le témoignage RMC ce matin de l'une des victimes. Et puis Chine, devant la justice française aujourd'hui, l'enseigne chinoise va tenter de se défendre face à la demande de suspension engagée par l'État après le scandale des poupées sexuelles.
C'est une question que l'on se pose tous à un moment ou à un autre. Est-ce que les ondes de nos smartphones sont dangereuses pour notre santé ?
Eh bien, vous pouvez souffler ce matin, ça ne semble pas être le cas. L'exposition à ces ondes n'augmenterait pas le risque de cancer, selon un rapport de 400 pages publié hier par l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, qui a fait la synthèse de toutes les études sérieuses sur le sujet. Solène Leroux.
Oui, il n'y a pas de lien de cause à effet établi entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancer. Une bonne nouvelle, même si l'agence reste prudente, car dans les milliers d'études scientifiques parues ces 10 dernières années sur le sujet, plusieurs suggèrent un impact des ondes sur la fertilité et le fonctionnement cérébral. Les prochaines expertises se concentreront donc sur ces effets à l'avenir, précise à RMC l'ANSES, qui en profite pour donner quelques conseils à la population. Il y a ce que vous savez déjà, il est préférable d'utiliser son téléphone portable avec modération. Moins connu en revanche, sachez qu'il vaut mieux utiliser des écouteurs ou des enceintes, en clair tout dispositif qui permet d'éloigner le portable de votre corps. Et enfin, quand vous êtes à l'intérieur, privilégiez le Wi-Fi plutôt que le réseau mobile.
Plus que quelques points de désaccord entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce que dit Donald Trump, qui assure qu'un accord est proche entre Kiev et Moscou. Il va envoyer son émissaire spécial la semaine prochaine pour rencontrer Vladimir Poutine. Il est 7h32 et c'était il y a 3 semaines, jour pour jour, l'attaque à la voiture Bélier sur l'île d'Oléron, pour laquelle le conducteur a été mis en examen et écroué. Et parmi les 5 victimes, il y a Philippe, qui a accepté pour la première fois de se confier au micro RMC de Pierre Bourgès.
Encore aujourd'hui, on peut voir sur le corps de Philippe de grosses égratignures sur ses genoux, ses mains et sa tête.
Rien de cassé, heureusement, mais la douleur est là pour me rappeler et j'essaie de passer à autre chose.
Si peu de blessures, c'est presque un miracle compte tenu du choc. Ce matin-là, il était à vélo pour aller au travail lorsque la voiture est arrivée derrière lui.
Et puis, en fait, quand je me rends compte, j'étais déjà en l'air sur la bagnole. Je tombe, j'essaie de m'esquiver pour pas que l'individu me roule dessus, quoi. J'étais déjà sur le chemin de l'hôpital quand, à un moment donné, les larmes qui sont coulées et puis j'aurais pu crever.
Ses béquilles l'aident encore à marcher. Aujourd'hui, le cuisinier ne s'est pas tout à fait remis de cet accident.
Je fais quand même un peu plus attention quand je vois une voiture, je m'éloigne peut-être un peu plus. Inconsciemment, il y a encore des séquelles.
Et le pire pour lui, c'est qu'il connaissait le conducteur avec qui il avait partagé quelques verres.
On a quand même vu quelqu'un ensemble, on se connaissait un peu, quoi. J'ai vu que c'était lui, ouais. C'est la colère, c'est la douleur. Enfin, j'aurais jamais dit, ouais, va faire un truc comme ça un jour.
La semaine prochaine, Philippe se rendra au travail à pied avant de pouvoir reprendre plus tard ses trajets à vélo.
À Paris, l'enquête continue de progresser un peu plus d'un mois après le casse du siècle au Louvre. Les joyaux de la couronne n'ont toujours pas été retrouvés, mais 4 nouveaux suspects ont été interpellés hier en région parisienne et en Mayenne. Parmi eux, le probable membre manquant du commando de cambrioleurs. Chine devant la justice aujourd'hui pour répondre à la demande de suspension formulée par l'État après le scandale des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Le gouvernement veut que sa réouverture en France soit conditionnée à la mise aux normes du géant chinois. Du e-commerce, mais ça s'annonce plus facile à dire qu'à faire, Victor Joannin.
Oui, le juge va devoir estimer si la demande de bloquer la plateforme temporairement n'est pas disproportionnée au regard des nombreux manquements qui lui sont reprochés. La décision sera rendue dans quelques jours, voire quelques semaines, mais selon plusieurs avocats spécialisés, comme Alexandre Archambault, il est peu probable que Shein soit contrainte de fermer.
La responsabilité lorsqu'on vend des produits ou des services illicites en marketplace, elle incombe avant tout aux vendeurs et non pas à la plateforme. La plateforme engage sa responsabilité si elle n'agit pas promptement sur signalement. C'est ce qui semble avoir été fait concernant Shein, puisque la fonctionnalité Marketplace a été suspendue, je crois, le lendemain du signalement.
La plateforme a effectivement fermé la partie du site où elle permet à d'autres fabricants de vendre. Les produits illicites ne sont donc plus accessibles. C'est une première victoire selon Bercy. On fait feu de tout bois et peut-être qu'à force de marteler que le modèle Shein n'est pas vertueux, les consommateurs hésiteront à acheter chez eux, explique un conseiller à RMC. Le gouvernement a aussi obtenu l'ouverture d'enquêtes en parallèle visant Shein, l'une confiée à l'Office des mineurs, l'autre au niveau de la Commission européenne.
Nicolas Sarkozy va-t-il être définitivement condamné pour la 2e fois? Réponse à 14h cet après-midi. La Cour de cassation doit rendre sa décision dans l'affaire Big Malion sur le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ex-chef d'État a déjà été condamné en première instance et en appel.
7h35 sur RMC. Marseille s'offre un peu d'air en Ligue des Champions.
Et revient dans la zone des barragistes avec sa victoire 2-1 hier soir au Vélodrome face à Newcastle grâce à un doublé d'Aubameyang. Ce soir, ce sont les Anglais de Tottenham qui se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes pour le PSG qui a très envie de se racheter après sa défaite contre le Bayern Munich le mois dernier, Valentin Jamin.
Oui, les Parisiens n'ont pas l'habitude de perdre chez eux. Ce n'est arrivé que 2 fois en 2025 en Ligue des Champions. Alors l'attaquant Gvisha Kvaratskhelia veut vite repartir de l'avant.
It was a difficult game again.
Cette défaite contre le Bayern a été difficile pour nous. On veut revenir. Cette rencontre est une seconde chance pour regagner à domicile et on va tout faire pour ça.
We'll try to win.
Depuis, le PSG l'a emporté 2 fois en Ligue 1 et récupère peu à peu ses blessés. Le ballon d'or Ousmane Dembélé devrait revenir ce soir face à Tottenham. Premier adversaire du club cette saison en août. Les Parisiens, menés 2-0, avaient fini par gagner la Supercoupe d'Europe, se souvient l'entraîneur Luis Enrique.
C'est un bon souvenir parce que ça finit bien. Je pense qu'on est mieux prêt pour chercher d'être une équipe dominante. Je pense que c'est une caractéristique qui a montré cette équipe. Tout le temps qu'on a eu des difficultés, on a pu les surmonter.
La victoire est aussi importante pour rester dans le top 8 qui permet de se qualifier directement pour les 8e de finale.
PSG Tottenham, c'est à 21h ce soir, un match à vivre en direct et en intégralité sur RMC. Rotten sera en direct du Parc des Princes, suivi de l'afterfoot et du casar enchaîné jusqu'à 1h30 du matin.
Et puis le quintet 13h55 sur l'hippodrome de Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Ciel de Paris. L'outsider, c'est le 7, Daiki Berry.
C'était le journal des listes d'Angers. 7h36, vous réagissez au prix de l'électricité. Qui pourrait baisser? C'est en tout cas Sébastien Lecornu qui dit qu'il en fait une priorité. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Mathieu, kiné à Lille. Alors, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est encore des effets d'annonce. Hein. Il y a 3-4 semaines, ils ont augmenté la TVA sur l'abonnement de 5,5% à 20%. Donc à un moment, on ne sait plus trop quoi. Hein.
Mmh. Oui, il y a un côté, ça monte d'un côté, ça baisse de l'autre, ouais, pour pouvoir annoncer qu'on le baisse. On a presque l'impression qu'ils ont monté pour pouvoir dire qu'ensuite ils font baisser.
C'est ce qu'ils font depuis des années.
Parce que ça n'est qu'une histoire de taxe, on l'a bien compris, hein, et c'est Nicolas Goldberg qui nous le disait tout à l'heure. Cette annonce de baisse, en fait, c'est juste, après avoir monté les taxes, on les rebaisserait.
Et déjà, étant donné qu'on est le premier pays producteur d'électricité d'Europe, on a le plus gros parc nucléaire, moi je comprends déjà pas pourquoi nos tarifs ils sont aussi élevés. Voilà, donc quand
et encore, ils sont parmi les plus faibles, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, parmi les plus faibles comparés à l'Allemagne, on est quand même nettement en dessous. Vous payez très cher votre électricité, Mathieu?
Raisonnablement, on fait attention. Hein,
on a tous appris à faire attention.
Ouais, c'est ça.
Espérons, en tout cas, j'ai envie de vous dire, après toutes les hausses, s'il pouvait y avoir une petite baisse, ça fera pas de mal. Merci Mathieu, en tout cas, comme lui, vous nous appelez. Mathieu qui était à Lille, il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 7h42. Et si c'était enfin le début de la fin de la guerre en Ukraine? Bonjour Bruno Tertrais. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de La Guerre des Mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions Alpha. Donald Trump, cette nuit, s'est dit optimiste sur un accord Russie-Ukraine. Et vous, Bruno Tertrais?
Non, je ne le suis pas. Mais il est normal que Donald Trump se dise optimiste. Il est normal qu'Emmanuel Macron dise qu'il y a une petite chance, que c'est le jeu, c'est la diplomatie. Et puis, il ne faut pas désespérer non plus les opinions. Mais je ne crois pas du tout que la Russie, parce que c'est de là que le problème va venir, puisse accepter le nouveau texte qui est mis sur la table par les Américains en prenant compte les idées, les lignes rouges des Ukrainiens et des Européens.
Alors, ça veut dire que ces négociations, c'est du bluff, encore une fois?
C'est pas forcément du bluff, non. Je crois que d'abord, l'administration Trump, après Gaza, voulait vraiment faire le coup, entre guillemets, de l'Ukraine. Ça n'est pas totalement du bluff. Et puis, ça permet aussi aux Ukrainiens de montrer que eux, ils sont toujours prêts à négocier. Ça permet aux Européens de montrer qu'ils ne veulent pas bloquer les initiatives de l'administration Trump. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite chance, une toute petite chance, pour que ça débouche sur un processus qui sera long. C'est certainement pas pour les jours qui viennent, mais qui à un moment coïncidera avec une situation sur le champ de bataille qui est le moment où à la fois Russie et Ukraine voudront négocier. En même temps, on n'y est pas.
Sauf qu'on n'y est pas sur le champ de bataille, ouais. Sur le front, ça continue à bombarder, il y a chaque jour des morts.
Ben évidemment, parce que la manière de négocier de la Russie, c'est deux choses. D'abord, c'est ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Première chose. Deuxième chose, c'est pendant la négociation, les bombardements continuent. Or, c'est justement là que le bât blesse, parce que les Ukrainiens et les Européens ont toujours dit, attendez, pour pouvoir négocier correctement, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. On ne négocie pas sous les bombes, sinon ça n'a pas de sens. Et la Russie a toujours refusé ce cessez-le-feu. Et donc, on peut dire que en théorie, on pourrait avoir soit un cessez-le-feu, soit un accord de paix. Mais de toute façon, si on veut un accord de paix,
il faudra commencer
un cessez-le-feu. Et évidemment, or, la Russie n'en veut pas.
L'Ukraine est en faiblesse.
Oui, mais la Russie aussi. Si vous voulez, à force de dire que l'Ukraine est en difficulté, on oublie que la Russie commence elle-même à souffrir, notamment du fait des frappes ukrainiennes sur son complexe de production et de distribution de pétrole et de gaz. Les difficultés russes se voient moins, mais elles sont réelles. Simplement, tout l'art du Kremlin, dans la grande tradition du KGB, c'est de persuader l'opinion occidentale que les Ukrainiens sont faibles et qu'ils demandent, il suffit de pousser un petit peu pour qu'ils fassent la paix. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des difficultés militaires sur le terrain, c'est pas parce qu'il y a un scandale de corruption réel dans l'entourage de Zelensky que la population ukrainienne est prête à crier grâce.
Vous dites, Bruno Tertrais, que même la Russie finit quand même par être touchée. Mais dans le même temps, on a toutes les opinions publiques ou les dirigeants européens, je pense notamment au ministre de la Défense allemand, qui dit ils sont en train de reconstruire leur arsenal. Voilà. Ils seront même peut-être prêts dès cette année avec l'objectif d'aller plus loin et peut-être même de toucher la Pologne ou nos frontières.
En fait, les deux sont vrais en même temps. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, depuis 2022, a transformé son pays en une gigantesque machine de guerre. Toute l'économie est dirigée vers la guerre. Alors c'est vrai que ça souffre, mais c'est vrai en même temps que, si vous voulez, c'est comme un train qui est parti et qu'on peut presque plus arrêter. Donc la reconstruction de l'arsenal militaire, la modernisation, tout ça, ça se fait. Et en même temps, derrière, l'économie du gaz et du pétrole, qui est le fondement quand même de l'économie russe, commence à souffrir. Donc, si vous voulez, dans le temps court, dans les années qui viennent, la Russie peut continuer à avancer militairement. Elle pourrait même, si elle le souhaitait, je ne sais pas si c'est le cas, à un moment, eh bien faire une petite attaque militaire ouverte contre un pays de l'OTAN pour nous provoquer. Elle perdrait. Elle sait qu'elle perdrait, mais elle essaierait de le transformer en victoire politique. Donc, si vous voulez, les deux sont vrais en même temps. On a du mal à croire quand même que la machine militaire russe ne s'essouffle pas à un moment du fait de l'essoufflement de la machine économique, mais d'ici quelques années, malheureusement, c'est pas pour maintenant. Donc, tout ça peut être vrai en même temps.
On apprend par la presse américaine, et c'est assez savoureux, j'allais dire, que le propre émissaire de Donald Trump donne en quelque sorte en coulisses des conseils aux Russes sur la manière de gérer le Trump. Alors, au fond, voilà comment il fonctionne. Si vous voulez obtenir un truc, voilà comment il faut lui parler.
C'est complètement hallucinant. Pardonnez-moi l'expression, mais je n'ai jamais vu ça. C'est quasiment de la haute trahison. En tout cas, si les démocrates avaient fait ça, je peux vous dire que les républicains diraient pendez-les haut et court. En fait, on comprend que, sans vraiment être surpris, on comprend que Steve Witkoff, l'émissaire américain, eh bien, il est complètement sous l'influence des Russes. En tout cas, il veut tellement faire plaisir à la fois à son président, bien sûr, et aux Russes, qu'il dit, bah, écoutez, donnez-moi quelques idées, je vais faire croire que ça vient de chez nous. Enfin, c'est quasiment la
trahison. Je vais faire croire que ça vient de chez nous. Sous-entendu, voilà, pour que ça passe avec Donald, voilà comment ça marche.
Quoi. Alors, l'art de la diplomatie, c'est aussi souvent de faire croire à l'autre que l'idée vient de chez lui. Mais simplement, là où on a quand même une manœuvre de manipulation digne du KGB, c'est que pourquoi est-ce que ces conversations sont sorties ? Un, parce que ça veut dire que les Russes les ont enregistrées, et deux, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils voient que les Américains sont en train de rééquilibrer leur position sur le fameux plan, et c'est une manière de dire, c'est vraiment des manières de crime organisé, de mafia et de KGB en même temps. Et là, ils sont en train de dire aux Américains, vous regardez toutes les saletés qu'on peut faire si vous commencez à avoir des positions qui ne nous plaisent pas. Pour moi, c'est exactement les méthodes du KGB.
Bruno Tertrais, on l'a appris cette nuit, 4 personnes, dont 2 Français et une Franco-Russe, ont été mis en examen, soupçonnés d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie. Est-ce que c'est pas une façon de redécouvrir qu'au fond, on est déjà en quelque sorte en guerre, c'est-à-dire en quelque sorte la Russie, déjà d'une manière ou d'une autre, en s'infiltrant, en s'ingérant, oui, est en guerre avec nous.
Je crois qu'il faut faire très attention avec cette expression qui consiste à dire « nous sommes en guerre ». Pour la plupart des Français, « nous sommes en guerre », ça veut dire « c'est militaire, c'est la vraie guerre, c'est 39-45 ». Donc moi, je vais pas dire qu'on est en guerre, ou alors il faut avoir une définition de la guerre qui est tellement large que ça veut plus dire grand-chose.
Ils abîment.
Voilà, on est dans un affrontement avec la Russie qui s'affirme comme un adversaire de la France. Et tous les jours, on a effectivement des attaques non militaires de la Russie. Mais je préfère parler d'affrontement plutôt que de guerre, qui est quelque chose qu'il faut, à mon sens, réserver quand même à l'affrontement militaire proprement
dit. Et c'est parfaitement respectable, et j'allais dire même tout à votre honneur, justement, de le dire. Bruno Tertrais, une dernière question. On l'entend, demain, il a commencé à nous y préparer. Emmanuel Macron va annoncer le retour du service militaire, alors un service militaire volontaire. Est-ce que, effectivement, vous vous dites la France doit se préparer?
Oui, je crois qu'il faut se préparer, mais tranquillement. D'abord parce que nous ne sommes pas en première ligne. C'est les pays baltes, la Pologne et d'autres qui sont en première ligne. Il faut se préparer tout de même parce que il est normal que, pour dissuader la Russie, l'idée c'est de prévenir la guerre militaire, il faut pouvoir faire comprendre aux Russes que nous sommes forts, que nous sommes prêts à résister et que nous contribuerions à la défense de nos amis et de nos alliés très proches de la Pologne, de la République tchèque, de Roumanie et des pays baltes. Donc il faut pouvoir le dire, bien sûr, mais justement pour éviter que Vladimir Poutine soit tenté un jour de faire une opération contre un pays européen.
Merci Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre, La Guerre des des mondes, retour de la géopolitique et du choc des empires aux éditions Alpha. Tout à l'heure, François Hollande sera mon invité à 8h30. Je lui poserai aussi évidemment cette question de l'engagement ou non de la France sur une éventuelle défense. 7h50 dans un instant, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, le candidat écolo à la mairie de Paris veut interdire les SUV en ville. Je crois que vous avez une contre-proposition, Louis.
Chacun sa proposition absurde. Moi, je propose d'interdire les David Béliard des grandes villes. Dieu sait que ça nous libérait de la place.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy, qui veut interdire d'interdire. Mais d'abord le bonus, Mathieu, Julien Doré, qui annonce une tournée américaine. Coco Caline.
Il sort sur le triomphe de sa tournée française. Plus d'un million de spectateurs en cumulé et un album de reprises rigolotes qui cartonne. Tout part d'un pari. Julien Doré a dit il y a quelques semaines, j'avais annoncé si je fais complet à Boulazac en Dordogne, je lance une tournée aux États-Unis. On m'avait répondu que de la gueule. Et ben voilà quoi, il a été complet à Boulazac. Alors il part pour 7 concerts, le Canada, Montréal, puis Washington, New York, Miami, Los Angeles. Il appelle ça la tournée Juju en Amérique. Il offre un look cowboy, Santiago, veste en cuir. Et il lance un appel à Taylor Swift. Coucou ma Taylor, je passe une tête en avril-mai par chez toi si tu veux passer voir le show. C'est écrit avec l'accent Frenchie. He's gonna be great, dit-il. J'ai hâte de voir ce duo.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi et c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour
Louis,
Apolline.
Interdire le stationnement des SUV à Paris, c'est la proposition de l'adjoint au transport d'Anne Hidalgo, candidat écolo dans la capitale, David Béliard. Il dit que les SUV n'ont rien à faire, je cite, dans les grandes villes. Et ça vous fait bondir, Louis.
Effectivement, David Béliard veut interdire les SUV dans les grandes villes. Moi, je propose d'interdire les David Béliard des grandes villes. Dieu sait que ça nous libérait de la place aussi pour la circulation. Mieux encore, puisque je ne peux pas interdire toutes les idées bêtes, je veux interdire l'interdiction. Ras-le-bol de ces pseudo-autoritaires et de leur hypocrisie au bout d'un moment. Rien que cette année, on a parlé d'interdire les cigarettes, les voitures thermiques, les pailles en plastique et maintenant les SUV. C'est leur passe-temps préféré bannir. C'est des verts rouges maoïstes de la culpabilisation, des stalinistes de pacotille qui substituent au moins le ridicule à l'horreur.
Ça veut dire que finalement, vous vous retrouvez presque le héros de mai 68. Vous voulez interdire d'interdire, Louis. Alors, très bien, mais si on va au bout...
Bah effectivement, très bien, allons au bout de sa proposition. On va interdire les Renault Captur, donc les Peugeot 3008, toutes les voitures familiales, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont parmi les modèles les plus vendus en France. Sympa pour l'industrie automobile et pour les dizaines de milliers de personnes qu'elle fait d'ailleurs vivre. Et puis les familles apprécieront de gérer quatre enfants dans une Clio. Voilà exactement ce qui nous manquait, une politique qui effraie encore un peu plus les parents. Ça va sûrement aider notre démographie qui dégringole. On ne peut quand même pas se plaindre à la fin, à longueur d'année, de la déindustrialisation et dans le même temps, rêver d'un pays où seules les trottinettes pliantes ont le droit de rouler sur nos rues.
Ça veut dire que pour vous, Louis, en fait, cette interdiction, cette guerre de la face à la voiture, ça n'a pas de sens.
Absolument aucun. C'est devenu même une obsession idéologique. La ville serait réservée à un idéal. Les cyclistes qui mangent du kale et font du yoga et pédalent dans un silence absolument sanctuaire. On ne vit pas à la fin dans un centre de méditation. On vit dans des villes réelles où des gens travaillent, élèvent des enfants, transportent des courses et parfois, oui, utilisent une voiture. Si nos amis écolos n'aiment pas ça, il y a toujours la paisible ruralité de la Corée du Nord.
Oui, enfin, il y a quand même un problème d'écologie, Louis.
Bah, bien sûr que oui, mais la France n'est pas le Far West de la pollution, Madame de Malherbe. Nous sommes l'un des pays qui pollue le moins au monde parmi les économies avancées. Et pendant que certains rêvent d'interdire les SUV sur un trottoir, la Chine construit environ 2 nouvelles centrales électriques à charbon par semaine. C'est de l'autoflagellation et du clientélisme électoral. De premier abord, on se bat contre un moustique pendant que le reste du monde affronte un éléphant.
Les villes doivent bien réduire la place des voitures, non ?
Bah certainement pas en humiliant ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter à 800 mètres de leur bureau, ni en forçant les Français à acheter des voitures électriques à 60 000 euros, ni en punissant les familles, les infirmières de nuit, les artisans, et encore moins en leur expliquant qu'ils doivent vivre comme un blogueur vegan de 23 ans.
Donc pas d'interdiction, on laisse les SUV proliférer.
On les laisse proliférer, la liberté d'aller et venir, ça compte, Apolline, et la voiture, qu'on la veuille ou non, reste un vrai outil de liberté dans les grandes villes si les Français aiment les SUV. Tant mieux, et puis je ne sais pas pour vous, mais rien au monde ne me donne plus envie de faire quelque chose que quand on menace de me l'interdire. C'est toujours la même tentation chez eux qui pensent savoir, mieux que tout le monde, comment les autres devraient vivre.
C'est quand même extraordinaire cette époque qui a changé. Vous, Louis Sarkozy, on ne peut pas franchement vous soupçonner d'être de gauche et pourtant vous avez les mêmes slogans que mai 68. Merci beaucoup, Louis. Louis, la voix de droite sur RMC les lundis, les mercredis. Demain, ce sera la voix de gauche. Cécile Duflot à votre place. Dans un instant, le journal de 8h. 4 personnes, dont 2 Français et une Franco-Russe, mis en examen, soupçonnés d'être des espions à la solde de la Russie. Tous les détails dès le début de ce journal. Du côté de la météo, attention, il fait froid. Et puis, juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre avec nous. Les supermarchés Auchan vont bientôt disparaître, il nous le dit dans un instant. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.